Tout le monde connaît ASICS, mais saviez-vous que son nom est l'acronyme d'une célèbre expression latine, Amina Sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. ASICS, c'est la marque numéro 1 du running en France, et elle est fière non seulement d'être le partenaire officiel de tous les coureurs du Schneider Electric Marathon de Paris, mais aussi d'accompagner chaque jour des millions de runners dans la pratique de leur passion qui les aide à faire du bien à leur corps et à leur esprit. Bonne écoute!
Bienvenue sur le podcast officiel du Schneider Electric Marathon de Paris. Cette émission va vous inspirer, vous motiver et vous aider dans la préparation de votre prochain défi sportif. Bonne écoute!
Soyez les bienvenus sur Objectif Marathon, le podcast officiel du Schneider Electric Marathon de Paris. Aujourd'hui, nous accueillons dans l'émission deux passionnés de course à pied qui vont nous raconter leur histoire avec l'une des courses les plus mythiques du monde de la course à pied, le marathon. La première est une jeune femme originaire de Nantes et membre du collectif de coureurs ASICS Frontrunner. Il s'agit de Marie Rouvière. Marie, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu ?
Merci à toi, ça va très bien, merci.
Notre second invité est un homme aussi à l'aise sur les plateaux télé que dans les sas de départ des grands marathons. Il anime l'emblématique émission d'aventure Koh-Lanta. Il s'agit de Denis Brognard. Merci infiniment, Denis, d'être parmi nous aujourd'hui. Comment ça va ?
Eh bien, ça va très bien. Merci de l'invitation pour parler d'une course mythique.
Bah, je suis ravi en tout cas qu'on soit réunis aujourd'hui tous les trois pour parler de cette distance qu'est le marathon. J'ai hâte de connaître vos histoires et surtout les motivations qui vous animent. Vous allez aussi nous régaler de petites anecdotes croustillantes. Une chose est sûre, j'ai face à moi deux passionnés de marathon avec des profils totalement différents. Toi Marie, t'es une jeune femme qui s'est frottée aux 42 km 195 assez tôt, puisque je crois que tu as moins de 25 ans. C'est plutôt rare, mais avant de nous parler de ton expérience sur marathon, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi t'as eu envie de te mettre à la course à pied ? Qu'est-ce qui t'a poussé un peu vers ce sport ?
Oui, effectivement, j'ai fait mon premier marathon à 19 ans et j'ai commencé la course à pied à 17 ans, je crois, donc j'étais encore au lycée. Et en fait, j'étais dans une période où ça allait pas du tout. Je me prenais beaucoup d'insultes en fait sur Internet, donc sur les réseaux sociaux pour le coup. Et en fait, j'ai vraiment eu besoin d'extérioriser tout ça. Et en fait, au début, donc, j'ai commencé à courir vraiment parce que c'était le truc facile. J'avais juste à prendre une paire de baskets, aller dans le parc à côté de chez moi et me mettre à courir sans montre, sans téléphone, sans rien du tout. Et je me suis rendu compte, en fait, au fur et à mesure que je courais, que je commençais à aimer ça et surtout que ça me permettait d'extérioriser et d'enlever vraiment toutes les tensions qu'il pouvait y avoir. Et ça me faisait vraiment mon sas de décompression entre ce que je pouvais vivre au lycée ou sur les réseaux sociaux et ce que je vivais chez moi quand je me retrouvais toute seule et que j'y pensais en fait.
Tu avais un sentiment de liberté, de sécurité quand tu courais, c'est ça que tu appréciais vraiment, le fait de te vider la tête ? Tu ne repensais pas à tout ça ?
Ouais, en fait, c'est le fait de pouvoir décharger physiquement tout ce que tu peux ressentir émotionnellement parlant, tout ce que tu peux ressentir dans ta tête qui est un peu brouillon, tout ce que tu peux te prendre en pleine face, ce que tu peux lire sur toi. Ça te permet vraiment de transformer cette douleur un peu mentale en douleur physique. Tu vas, tu cours, t'enfiles tes baskets et tu te vides. Et quand tu rentres, bah, ça va mieux.
Je me tourne vers toi maintenant, Denis. Alors toi, t'es un sportif accompli, t'as une dizaine de marathons à ton actif, notamment New York et Chicago. Mais est-ce que tu te souviens de ton tout premier marathon et surtout dans quel état d'esprit tu étais juste avant ton départ ? J'imagine que bah, c'est toujours un petit peu stressant les premières fois, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Comment ça s'est passé toi ? T'étais en quel état ?
J'étais dans un état de stress avancé, forcément. J'avais 25 ans, c'était en 1992, j'étais jeune journaliste. Et j'avais envie de me lancer un défi. Alors, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. J'avais pas besoin de me défouler. D'ailleurs, ça me fait peur, ce que tu dis. C'est-à-dire être obligé, entre guillemets, de courir pour dépasser les insultes sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai un conseil à te donner dans ces cas-là, c'est coupe tes réseaux sociaux ou en tout cas limite-les considérablement, ce qui n'empêche que courir, c'est quelque chose de formidable, mais il faut que courir, ce soit quelque chose de positif. Il ne faut pas que ça arrive comme une espèce de réponse, comme un renvoi à quelque chose de négatif. Mais pour revenir à mon premier marathon, c'était le marathon de la liberté entre Caen et la côte du côté de Ouistreham pour fêter le cinquantenaire de la libération. Et ben, ça a été compliqué parce que je n'étais pas du tout préparé. J'étais préparé pour courir à coup sûr 10 bornes, correctement 20 bornes, mais le reste, je n'avais jamais fait. Je n'avais jamais couru plus de 20 km dans ma vie. Donc, je suis parti pour faire au rythme semi. Donc, je suis passé, je ne sais pas, peut-être en 1,36, 1,37 au semi. Et puis derrière, le calvaire a commencé. Le mur du 30e kilomètre, ce n'était pas un mur. Moi, c'était une montagne. Et j'ai marché 4 ou 5 kilomètres sur les 10 derniers kilomètres pour rallier l'arrivée dans des conditions compliquées. Je m'en souviens comme d'un moment douloureux, cette fin de marathon.
J'imagine que le lendemain, tu devais avoir des sacrées courbatures. Si tu n'étais pas très entraîné, tu as dû mettre plusieurs semaines à t'en remettre, même après ces coups.
Ce qui est terrible, c'est que j'ai un peu honte de le dire, mais j'ai jamais eu le temps ni la persévérance de m'entraîner spécifiquement pour le marathon. Je cours régulièrement. Encore une fois, je suis toujours prêt pour faire 20 km, ça sans aucun problème. Mais ensuite, j'ai toujours un petit manque. Et je vous avoue que je n'ai jamais couru un marathon sans marcher. C'est-à-dire que j'ai marché au minimum 1 km. Et j'ai toujours... On parle des champions qui sont capables de faire du négative split, c'est-à-dire de faire le second semi-marathon plus rapidement que le premier. Moi, ça n'a jamais été le cas. C'est-à-dire que je suis capable de passer quasiment sur mes temps de semi-marathon au 21e kilomètre. Et puis derrière, eh ben, il faut que je tienne, il faut que je lutte jusqu'à l'arrivée. Mais à chaque fois, j'ai eu de terribles courbatures et j'ai mis quelques jours à m'en remettre.
Marion, on va revenir tout à l'heure hein, sur ton expérience et ton premier marathon, mais on va s'intéresser au stress. Est-ce que tu avais de l'appréhension, toi aussi, sur la ligne de départ, juste avant le go et l'envoi de ces 42 kilomètres ?
Sur le moment, sur la ligne de départ, un tout petit peu. Mais en fait, comme je savais que je m'étais préparée pour,
au contraire de c'est même, la différence. Hein.
J'étais pas stressée. J'avais mon père avec moi qui avait déjà fait un marathon avant, donc pour lui c'était son deuxième. Donc il était dans le sas avec moi. Il m'avait dit "T'as fait la prépa, c'est bon, t'es prête." Donc, dans tous les cas, bah, faut profiter. C'est du bonheur, en fait.
On va revenir justement sur la préparation et un petit peu les différences qui, ce qui vous rassemble et ce qui peut-être vous dénote par rapport à tout ça. Si je vous demande de me donner peut-être le premier mot, la première émotion qui vous vient quand on vous parle de marathon, ce serait quoi, toi, Marie ?
Dépassement. Parce que c'est en fait, c'est un moment où justement, comme tu disais, Denis, à partir du moment où tu passes le 25e, 30e kilomètre, c'est un moment où en fait, c'est la tête qui prend le dessus sur les jambes. Et pour moi, à partir du moment où la tête dit aux jambes d'avancer, les jambes avanceront. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et donc, du coup, j'ai ce moment-là où vraiment, à partir du moment où tu repousses tes limites mentales, tu sais que tu peux arriver à tout, en fait.
Moi, je dirais à la fois les larmes, parce que je crois que j'ai toujours eu des larmes qui ont coulé à chaque arrivée de marathon que j'ai terminé. Et puis le partage, parce que je trouve que c'est vraiment le marathon, la discipline par excellence, où il y a tout. Il y a des grands, des petits, des beaux, des moches, des riches, des pauvres, des jeunes, des moins jeunes. Et il y a des Français, des étrangers, des blancs, des noirs, de toutes les couleurs. Et je trouve que ce partage, il est extraordinaire. Parce que dès l'instant qu'on a mis son short, ses baskets, et qu'on s'est élancé sur ces 42 km 195, quelle que soit la ville du monde, quelle que soit l'importance de ce marathon, il y a des regards qui ne trompent pas, il y a des moments de partage dès le départ, mais aussi au moment où on souffre. Tu le disais, quand tu es dans la difficulté, tu as toujours quelqu'un aussi pour te tendre la main. Et je trouve que cette atmosphère très privilégiée du marathon et des marathoniens, c'est-à-dire cette famille, c'est quelque chose d'extrêmement réconfortant et c'est une espèce de bulle à l'intérieur d'une vie faite beaucoup plus d'égoïsme et d'individualisme.
On va se concentrer maintenant sur les aspects plus techniques de la préparation marathon. On le sait, elle demande de l'énergie, mais surtout du temps, voire beaucoup de temps, notamment pour préparer les fameuses sorties longues qui sont assez caractéristiques de la prépa marathon et qui demandent d'être placées un peu en amont dans l'agenda. Je pense à toi, plus particulièrement Denis, parce que tu as une vie professionnelle pour le moins bien remplie. J'imagine que tu dois aussi être amené à voyager pas mal avec ton métier et tes différentes activités. Comment est-ce que tu t'organises pour t'entraîner quand tu prépares un marathon ? Alors, on l'a compris, le premier marathon, c'était un peu, tu y allais un petit peu au talent, ouais. Comme on dit. Comment ça se passe quand tu veux vraiment préparer une échéance sportive ? Comment tu arrives à t'organiser ?
Alors, je tiens tout de suite à vous dire que je suis un autodidacte et que j'essaye d'éviter les préparations de pure les préparations de spécialistes avec de la piste, etc. Je pars du principe que je ne serai jamais champion du monde, que je peux évidemment progresser par rapport à mon objectif et par rapport à mon temps de base. Néanmoins, je fais tout ça au feeling. Alors ok, des sorties longues, malheureusement pas assez longues, pas assez nombreuses pour justement avoir l'endurance nécessaire pour être au top du début à la fin d'un marathon. Mais les séances spécifiques, les choses comme ça, ce sont des choses trop rébarbatives pour moi. Je ne fais pas de piste, je fais très peu d'accélération, choses comme ça. Un, parce que souvent, en plus, ça m'abîme un peu physiquement. Souvent, je peux me blesser, je peux avoir mal. J'ai souvent des problèmes de tendinite au tendon d'Achille. Je me suis d'ailleurs fait une rupture du tendon d'Achille à force de courir aussi. Mais donc c'est plus sur le feeling, c'est plus sur le plaisir, et puis c'est aussi sur le partage d'autres activités. Je nage, je fais du vélo pour l'endurance. Mais j'ai jamais eu de problème au niveau du cœur, au niveau du souffle. Tout ça, ça fonctionne très bien du début à la fin. Ce qui me pose problème, et tu le disais Marie tout à l'heure, ça me faisait réfléchir. Tu dis c'est la tête qui guide les jambes. C'est sûr. Mais il faut que les jambes, elles aient quand même un certain niveau. Et moi, quand je te dis que je marche à certains moments, c'est parce que je ne peux plus courir. Parce que physiologiquement, mes synapses musculaires, elles se bloquent, ce qui provoque des crampes. Donc, je ne suis pas un exemple de préparation. Mais encore une fois, ce que je voudrais dire aux gens qui ont envie de faire du marathon, on n'est pas obligé de lire les magazines spécialisés. On n'est pas obligé de faire du 30-30. On n'est pas obligé d'aller faire de la piste. On peut aussi s'éclater en forêt. On peut aussi s'éclater dans une course beaucoup plus empirique et réussir à terminer les 42 km 195. Ça ne veut pas dire qu'on fera un super chrono et qu'on progressera à la vitesse grand V. Mais est-ce que c'est le but de tous les marathoniens? Je ne suis pas sûr. Le but, c'est peut-être déjà de terminer et ensuite prendre du plaisir et puis de voyager, parce que c'est bien aussi, moi ça a été une de mes motivations, c'est-à-dire de découvrir le monde à travers les plus grandes courses de la planète.
On le comprend, tu as une préparation qui est assez instinctive.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous présenter quand même, allez, une semaine type, quand tu prépares un marathon, tu nous dis que tu fais aussi un petit peu de piscine, peut-être du vélo. Ouais. Voilà, ça ressemblait à quoi globalement tes semaines d'entraînement quand tu préparais un grand marathon?
J'ai pas de semaine spécifique parce que, comme tu le disais, j'ai une vie professionnelle qui est assez atypique, avec des semaines qui ne se ressemblent pas, avec des voyages, des déplacements, des moments où je peux travailler non-stop pendant des heures et des heures. Donc, je suis capable de courir deux jours comme deux nuits avec une lampe frontale, mais globalement une semaine type, je cours aujourd'hui deux fois par semaine, j'essaye de faire une à deux fois par semaine du vélo et une à deux fois par semaine de la natation. Voilà.
Tu calcules un petit peu tes kilomètres, tes séances. Est-ce que tu as un petit peu de data, comme on dit?
J'ai ça parce que ça m'amuse, mais en instantané. C'est-à-dire que je ne garde pas ça dans le temps. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire, tiens, j'ai fait une heure à 12 à l'heure en ayant fait 180 mètres de dénivelé positif. Voilà, ça m'intéresse. Mais qu'au bout d'un mois, je sache que j'ai fait 130 kilomètres ou 222 kilomètres, ça, je m'en fous un peu. C'est-à-dire que, encore une fois, moi, je suis beaucoup plus aux sensations, un peu à l'ancienne. J'ai une montre connectée, évidemment, mais, par exemple, j'ai pas de ceinture pour... Je ne cours jamais... Je cours aux sensations. C'est-à-dire que je cours de temps en temps avec des potes qui me disent « Oh là là, non, mais là je peux pas aller plus haut. » Mais pourquoi tu peux pas aller plus haut? Bah, je le vois, là, sur mon cardio. Ouais, mais ton cardio, il dit un truc. Et ton feeling? Bah, je suis bien, pourtant. Mais si t'es bien, mais vas-y. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire aux gens qui ont envie de se lancer. Aller au feeling, aller aux sensations. C'est bien beau. Bien sûr qu'on peut être connecté aujourd'hui. On peut vous dire combien vous faites de pas. On peut vous dire ce qu'il faut manger. Mais faites ce qui vous plaît aussi. Et c'est aussi pour ça que moi, je cours. C'est pour pouvoir continuer à faire ce que j'aime à mon âge et, entre guillemets, vivre comme quand j'avais l'âge de Marie, c'est-à-dire comme quand j'étais presque à la sortie de l'adolescence et au début de ma vie adulte. Parce que c'est ça aussi le plaisir de courir. C'est pas uniquement progresser. Bien sûr qu'il y a de la technique. Mais il y a aussi ce plaisir de pouvoir garder un corps en adéquation avec un état de forme, être capable de se retrouver dans une liberté psychologique et intellectuelle parce que les endorphines, parce que toutes ces hormones qu'on sécrète en faisant du sport de longue haleine nous permettent d'avoir un état psychologique privilégié. Moi, j'en suis persuadé.
On le sent bien, hein, tu apprécies la notion de liberté dans la course à pied. Marie, est-ce que ce que dit Denis fait écho à ta préparation, ou au contraire, est-ce que toi, tu as une vision peut-être un peu différente de la prépa marathon? Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots comment tu t'entraînes et comment tu prépares t'as préparé ton marathon de Paris?
Bah, c'est marrant parce que moi, de base, je suis quelqu'un, effectivement, comme Denis, je cours énormément au feeling. C'est-à-dire que hors prépa marathon, avant, moi, ce que j'aimais faire, c'était j'allais, je courais au carton ou pas au carton si j'étais fatiguée. Et puis, mon but à moi, c'était uniquement de prendre du plaisir. Et quand j'ai commencé à préparer mon premier marathon, je voulais vraiment être sûre d'arriver sur la ligne de départ et d'être prête, en fait. Et donc, j'ai été sur Internet, j'ai pris le plan sur le site du Marathon de Paris pour courir un marathon en 4 heures. Et donc j'ai imprimé le plan chez moi et je me suis dit bon bah tu suis les séances. Donc en gros, en général quand je prépare un marathon, c'est comme ça que je fais.
Mais c'est toi qui as raison, hein. C'est toi qui as raison. Attention, quand je parle de cette liberté, c'est aussi parce que j'ai pas cette rigueur. Mais évidemment, si on a un objectif, et en plus à ton âge, avec l'envie de progresser, il faut suivre une préparation. Et il y en a partout. Et celle du marathon de Paris est très bonne. Il y a plein de coachs qui font ça. Donc dans l'absolu, c'est bien. Mais il faut être capable de temps en temps de s'en détacher aussi. Parce que, encore une fois, une préparation, c'est quelque chose de global qui doit être accessible à tous. Mais ensuite, on a chacun notre feeling, on a chacun nos sensations, on a chacun notre état de fatigue, notre état de forme. Et il faut donc pouvoir prendre la tangente à droite ou à gauche en fonction de cet entraînement type pour trouver les bonnes séances qui nous permettent d'arriver dans le meilleur état de forme au départ d'un marathon.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai imprimé le plan, mais sur toutes les séances, par exemple, je ne suis pas sûre qu'il y ait une semaine du plan où j'ai vraiment respecté toutes les séances.
Et ben ça, c'est bien.
J'ai fait les séances de vitesse. Il y a des fois où je ne les faisais pas et où je remplaçais par de la natation ou du vélo parce que j'étais fatiguée. Des fois, je faisais mes intensités sur le vélo. Des fois, les sorties longues, par exemple. Normalement, on fait des blocs d'allure à allure marathon dans les sorties longues. Moi, j'ai toujours fait mes sorties longues. Je dois courir 25 km. Je cours 25 km à la même allure. C'est peut-être pas forcément très bien, mais moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mon équilibre. Et à la fin, il faut vraiment pas culpabiliser en arrivant sur la ligne d'arrivée en se disant « Oh zut, j'ai raté 3 séances dans mon plan, il y a 3 séances que j'ai mal faites. » Ou alors, à la fin d'une séance, se dire « Ah, mais j'ai pas fait la dernière répétition parce que j'étais fatiguée. J'ai pas fait les allures qui sont écrites sur le plan. » Non, c'est pas grave, en fait. C'est un plan, c'est fait pour être suivi. Mais on a tous des aléas de la vie, des coups de moins bien, des coups où, au contraire, on va faire beaucoup mieux que les temps qui étaient prévus. Et faut jouer avec. Mais une fois qu'on arrive sur la ligne, si pour moi, je savais que j'avais suivi le plan dans sa globalité, on va dire à 70-80%, bah je savais que j'étais prête dans ma tête.
C'est intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas une façon de faire, mais qu'il en existe vraiment plusieurs.
Heureusement.
Oui, c'est important de le rappeler. C'est vrai que de toute façon, une préparation où finalement tout se passe comme les plans, comme on l'avait prévu, c'est quand même assez rare, ça n'existe jamais. Il y a toujours des imprévus, mais c'est finalement comme dans la vie, c'est aussi le reflet de la vie, la course à pied. En tout cas, j'ai remarqué quelque chose, c'est que tous les marathoniens et marathoniennes sont unanimes sur une chose qui est caractéristique, qui est commune à tous, c'est l'accompagnement de leurs proches. D'ailleurs, on dit souvent qu'on ne s'engage pas dans un marathon tout seul, on engage aussi sa famille, ses proches, parce qu'il y a les contraintes des entraînements, il y a parfois aussi l'adaptation alimentaire, il y a la fatigue. On sait qu'il y a des fois le baisse de l'enthousiasme, du moral, on peut être un petit peu aussi un petit peu plus dur à vivre, surtout quand on arrive à la fin d'une séance, et tout ça, bah, ça a des impacts sur la vie de famille, ça a des impacts sur les amis, sur les apéros entre amis, des fois qu'il faut faire un peu l'impasse à quelques jours d'un marathon. Comment est-ce que vos proches, à vous, ils vous ont soutenu? Comment est-ce qu'ils vous ont accompagné? Est-ce que ça a été quelque chose qui a été un peu embêtant pour eux, ou au contraire, ils vous ont encouragé, Marie?
Moi j'ai de la chance, donc comme je disais, mon père fait de la course à pied aussi, et il court aussi des marathons et des ultras, et donc il faisait la prépa en même temps que moi en fait. Il a pas du tout la même manière de s'entraîner que moi, il s'entraîne comme Denis en fait. Et pourtant on était tous les deux unis dans la même préparation, on avait tous les deux le même objectif, alors pas le même objectif de temps. Mais c'est l'avantage, c'est que donc j'étais encore chez mes parents, je vivais encore chez mes parents, et j'avais ma mère qui observait tout ça de loin et qui supervisait un peu tout ça, mon père qui était là pour me dire bon bah vas-y aujourd'hui il y a la séance, ok d'accord t'es fatigué, ok d'accord t'as eu des cours, mais viens on va courir une heure, c'est pas grave, même si tu devais faire 2 heures, on y va et ça te fera du bien en fait. Et j'ai vraiment eu de la chance d'avoir cette motivation-là et mon père qui a été à côté de moi. Je sais que ça a vraiment été un soutien énorme jusqu'à la ligne de départ du marathon, puisqu'on a pris le départ ensemble, qu'on puisse vraiment s'entraîner ensemble et vivre cette préparation ensemble.
Denis, toi, tu étais accompagné aussi par tes proches. Est-ce qu'ils étaient impliqués dans ta préparation, ou tu as fait ça plutôt de ton côté sans trop essayer d'embêter ta famille et tes proches?
Non, mais moi, mes proches ne sont pas tellement concernés par le marathon. Ma femme court, mais elle n'aime pas du tout la compétition. J'ai envie de te dire que le marathon, pour mon épouse, c'est surtout l'objet pour elle d'un voyage potentiel. Quand tu cours le marathon de New York, voilà, je cours le marathon de New York, mais j'arrive un peu avant, mais surtout je reste un peu après pour profiter de quelques jours de vacances. Même chose à Chicago, même chose à Londres notamment. Donc voilà, c'est plus dans ce cadre-là. Ensuite, c'est comme dans ma préparation, c'est-à-dire que moi, je cours quand j'ai le temps, quand je peux, quand j'en ai envie et sans impact véritablement sur ma vie personnelle. J'essaye évidemment de ne pas dire à ma femme que je vais courir toute l'après-midi d'un dimanche, ce qui pourrait poser problème. Mais dans l'ensemble, non, j'ai pas d'implication familiale dans tout ça.
Marie, est-ce que tes parents, tes amis, tes proches ont fait le déplacement jusqu'à Paris? Parce que t'es pas originaire de Paris pour assister et te voir passer sur le Schneider Electric Marathon de Paris.
Alors, mes parents habitent à Paris. Donc pour le coup, ils étaient là et j'ai des amis aussi qui sont venus sur la ligne d'arrivée et même au niveau du 30e kilomètre où ils savaient que je risquais de faiblir un peu. Donc ils étaient là et je sais que, par exemple, j'ai vu ma mère et mes petites sœurs au 38e kilomètre, je crois, juste avant la ligne. Et j'ai un souvenir très fort, en fait, c'est que je me suis mise à pleurer parce que je voyais qu'ils étaient là pour me soutenir. C'était vraiment l'émotion. Sauf qu'en fait, avec la douleur du marathon, pleurer, ça prend vraiment une énergie folle. Et donc, en fait, j'essayais de me retenir, de pas pleurer, parce que je me disais, c'est pas possible. Tu peux pas faire deux choses en même temps, courir et pleurer à cette étape-là du marathon, c'est pas possible.
Mais c'est dur pour les proches parce que souvent, moi j'adore aller sur les lignes d'arrivée des marathons ou sur le parcours, voir tous ces coureurs. Et c'est vrai qu'on en voit des fois pleurer. Et souvent, les proches s'inquiètent et se disent mais qu'est-ce qui se passe, ça va mal et tout. Alors que c'est finalement des pleurs de joie, des pleurs d'émotion, mais ça c'est positif. Et des fois les proches s'inquiètent, c'est pas évident.
Ouais, c'est ça. Et puis après, une autre anecdote, typiquement j'ai une amie qui était venue pour me supporter au kilomètre 30 je crois. Et en fait, je l'ai pas vue. Elle était sur le côté, mais moi, par contre, elle m'a vue. Donc, elle m'a couru après pendant 3 kilomètres en criant Marie, Marie, Marie. Et en fait, je l'ai jamais vue. Je sais. Elle m'a dit, écoute, je t'ai suivie pendant 3 kilomètres. Mais j'étais tellement en fait concentrée dans le truc à ce moment-là que je l'ai raté.
Mais c'est comme les paysages. Souvent, on va courir dans les grandes villes et on se dit, bah, super, on va profiter des paysages. Mais généralement, on est tellement concentré dans sa course qu'on ne voit pas forcément le paysage ou les choses passer. Denis, est-ce que toi, tu t'entraînes avec des amis, des copains? Comment ça se passe un petit peu? Est-ce que tu es plutôt solitaire ou accompagné?
Je fais un peu des deux, mais comme j'ai un emploi du temps qui est très fluctuant et que je ne peux pas courir chaque semaine, chaque jour à heure dite, je cours beaucoup plus souvent seul. Et comme je te le dis, parfois, quand je ne peux courir que de 6 à 7 le matin, bah, j'y vais. Et de 6h à 7h le matin, il n'y a pas grand monde qui est prêt à m'accompagner. Quand je fais une sortie courte, je pars souvent avec ma femme aussi. On essaye de courir ensemble. Et puis, j'ai un partenaire de course à pied fidèle qui vient en permanence avec moi et qui, quand je fais 15 bornes, en fait 25. Et quand j'en fais 20, en fait 30. C'est mon chien. J'ai un border collie qui est une border collie, Lucie, qui m'accompagne et qui comprend à l'instant même où je mets mes affaires de course à pied qu'on va partir courir et qui devient intenable. Et c'est vraiment ma source aussi de motivation parce que c'est extraordinaire de pouvoir courir avec son chien que j'ai dressé, c'est-à-dire que c'est un chien qui est évidemment sans laisse, qui s'arrête à chaque croisement, qui s'arrête à chaque passage à niveau autour de chez moi. Et c'est ça qui est très intéressant pour moi, c'est de pouvoir avoir ce complice qui est toujours prêt à partir avec moi et qui est toujours de bonne humeur.
Marie, je crois savoir que toi, tu fais partie d'un collectif de coureurs, les ASICS Front Runner. Est-ce que ça t'aide de partager tes séances en groupe, en communauté, avec des personnes qui peut-être partagent les mêmes objectifs que toi et du coup, bah, capables de comprendre ce que tu vis dans tes entraînements?
Ouais, c'est ça. Puis on partage même en temps normal nos entraînements ensemble. C'est-à-dire qu'on a sur Paris, il y a une séance tous les mardis où on va se retrouver et où on va être sur la piste justement à faire le fractionné ensemble. Et là où moi j'ai du mal à faire mon fractionné toute seule, avoir une émulation de groupe où même si on court pas sur les mêmes allures, on s'échauffe ensemble et on trouve toujours en fait quelqu'un pour s'entraîner, pour qui va nous pacer un peu sur certaines allures ou qui va faire à peu près la même séance que nous. C'est vraiment un soutien énorme et pour moi, c'est comme quand on parle un petit peu de courir avec de la musique, ça aide pour certains. L'émulation de groupe, elle est juste incroyable et c'est pas uniquement que dans les entraînements puisque pour le coup, on est extrêmement soudés, on a un groupe sur WhatsApp où on parle littéralement tous les jours. Donc dès qu'il y en a un qui va avoir un petit coup de mou ou même qui va avoir un entraînement à faire, en ce moment par exemple, j'ai l'impression que tous les matins je vois un message passer en disant coucou, bon alors aujourd'hui je vais aller m'entraîner au bois de Vincennes si vous voulez, j'ai 1h30 à faire, s'il y a quelqu'un qui veut venir, bah, il vient avec moi et on se retrouve à tel endroit. Et c'est juste incroyable et de pouvoir compter sur un groupe aussi soudé, ça apporte énormément.
J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse un peu plus à l'aspect mental du marathon, parce que boucler 42 km à 195, c'est quand même un accomplissement en soi. Est-ce que vous retirez une certaine fierté, peut-être d'avoir accompli ce défi-là ? Est-ce que c'est, peut-être vous allez développer des qualités mentales qui vont vous être utiles, même au-delà de la course à pied ? Est-ce que ça vous aide dans votre travail, dans votre vie de tous les jours ? Est-ce que le fait d'être un marathonien vous a peut-être donné une confiance en vous un peu plus importante ?
Ouais, moi, ça m'a redonné énormément confiance en moi. Justement, avec ce que j'ai pu vivre au lycée, le fait de savoir que j'étais capable de terminer un marathon, c'est terminer, courir un marathon, on se prépare en groupe ou tout seul. Il y a la famille sur le côté, mais au final, c'est que nos jambes qui courent avec nous. Et je sais, c'est le fait de savoir que je peux faire ça toute seule, par mes propres moyens, sans avoir, entre guillemets, besoin d'aide sur le moment, pendant la course. Ça m'apporte énormément. Je me dis, mais si t'as été capable de terminer un marathon, typiquement, cet examen-là, tu peux le finir. Enfin, c'est pas réviser 2 heures qui va te tuer, par exemple. Donc, ouais, ça m'a apporté énormément. Et même au niveau de la confiance en moi, me dire, t'es capable de courir. Donc, des petites tâches de la vie quotidienne ou des petits défis à surmonter. Par exemple, le premier confinement qui était assez dur. Je pense que niveau mental, ça m'a énormément apporté de faire du sport à côté parce que c'est ma bouffée d'oxygène, en fait.
Denis, toi, est-ce que tu as remarqué que finalement, ça t'aidait aussi, les aptitudes, les qualités que tu développais en courant t'aident aussi dans ta vie personnelle et professionnelle?
Ouais, je n'ai pas besoin du marathon ou de la course à pied pour acquérir de la confiance. Néanmoins, c'est vrai que c'est quelque chose qui me permet de me canaliser, qui me permet de me calmer, qui me permet de réguler un petit peu mon état de stress. Et puis, c'est aussi la faculté que me donne la course à pied d'être capable de régler des problèmes. C'est-à-dire que combien de fois j'ai un problème dans ma tête, je ne sais pas quelle décision prendre. Et le fait de courir, le fait d'ouvrir un petit peu les neurones, les muscles, et de se servir de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de ces endorphines, de ces hormones, ça permet d'être plus clairvoyant et peut-être d'avoir une capacité supplémentaire de décision. Donc c'est ça que m'apporte la course à pied. Maintenant, le marathon, c'était surtout un défi personnel, un défi sportif, mais qui ne rentrait pas en ligne de compte sur ma vie psychologique.
Est-ce que vous avez porté une attention particulière peut-être à votre nutrition, à votre sommeil, à votre bien-être? Parce que il y a le fait de préparer un marathon, mais il y a aussi le bien-être, le fait d'être en bonne santé. Est-ce que c'est des éléments qui sont importants? Est-ce que finalement c'est un peu comme un mode de vie, Denis? Est-ce que toi c'est est-ce que c'est un lifestyle finalement le marathon?
C'est clair, mais j'ai envie de répondre par la négative à ta question, parce que justement courir, c'est ce qui me permet de pas faire très attention à ce que je mange et à ma vie, et de garder entre guillemets une organisation proche de celle que j'avais quand j'étais adolescent, parce que la course à pied me permet de réguler mes petits excès de l'organisme. Voilà, donc c'est un style de vie, c'est-à-dire que le sport est un style de vie, le sport pratiquement au quotidien, plusieurs fois par semaine, c'est une certitude. Ça fait partie de ce qui compose mon environnement, ça fait partie de ce dont j'ai besoin pour être en équilibre avec moi-même. Maintenant, encore une fois, le fait de courir, ça me permet de manger peut-être un peu plus de sucreries. Faut pas imaginer que parce que je fais du marathon, je mange des pâtes matin, midi et soir et que je me prive d'un bon vin rouge de ma région d'origine, la Bourgogne. Au contraire, justement, comme je cours, eh bien, ça me donne quelques petits passe-droits. Et c'est ça qui est important aussi. Il faut pas être des ayatollahs dans la course à pied, à moins de vouloir faire 2 heures et de vouloir battre le record du monde. Mais quand vous êtes là, même si vous faites 4 heures et votre objectif, c'est de faire 3h50, et kiffez la vie. Ne vous prenez pas la tête. C'est comme ce que je disais tout à l'heure. Un plan d'entraînement, c'est bien, mais sachez en sortir. Un plan draconien et un peu drastique en termes de nutrition, c'est bien, mais surtout pendant quelques jours, quelques semaines précédant un marathon ou une grande échéance, mais pas dans la vie de tous les jours. Faites-vous plaisir. La course à pied, certes, c'est une activité de stakhanoviste, mais un stakhanoviste, ça peut être aussi un jouisseur de la vie, et c'est un peu ma philosophie de la vie.
Effectivement, c'est très important d'avoir ces petits sas de décompression, de se faire plaisir et de ne pas rentrer dans une rigueur trop extrême, parce que sinon, mentalement, ça devient très dur. Il y a cette phrase qui est très connue chez la communauté des coureurs, c'est « esprit sain dans un corps sain ». Est-ce que toi, Marie, finalement, la course à pied, c'est ton premier vecteur de bien-être?
Ouais, je rejoins Denis là-dessus, par exemple. Moi, je me suis mise à courir le matin. Avant, j'étais énormément du soir. Puis, depuis quelques années, je me suis mise à courir donc, avant d'entamer ma journée, donc à 6, 7 heures. Et le fait d'aller courir le matin, alors le réveil est toujours absolument atroce. Je n'ai pas vraiment trouvé de solution.
Je suis comme toi.
Voilà, c'est très dur de se lever, mais je ne regrette jamais. C'est-à-dire que je vais courir le matin et quand je rentre, j'ai un sentiment d'accomplissement et de bien-être et je sais que je démarre toujours la journée du bon pied parce que j'ai fait quelque chose avant et je suis complètement plus apaisée, plus détendue. Effectivement, je peux avoir résolu certains problèmes que j'avais dans ma tête et que j'ai pas réussi à résoudre pendant la nuit. Donc voilà.
On pouvait pas se quitter, Denis, sans parler de Koh-Lanta. Dans cette aventure, beaucoup de coureurs sont représentés. Il y a évidemment Claude ou encore Dorian qui sont des très bons coureurs. Est-ce que tu penses que le fait d'être un coureur à pied sur ce type d'émission, ça peut présenter un avantage, notamment pour les capacités, les aptitudes d'endurance, les aptitudes mentales? Est-ce que finalement, les coureurs à pied sont des meilleurs candidats de Koh-Lanta selon toi?
Non, je ne pense pas que ce sont les meilleurs. Je pense qu'un sportif a des avantages certains dans Koh-Lanta. Mais Koh-Lanta, c'est un cocktail. Il faut être capable de s'intégrer dans un groupe. Il faut être capable de bien gérer les relations humaines. Il faut avoir certes des capacités aérobie, donc courir plutôt vite et longtemps. Mais il faut aussi faire preuve d'équilibre. Il faut être d'une bonne souplesse. Bref, ce sont plusieurs ingrédients qui font un bon candidat de Koh-Lanta. Mais puisque tu parlais de Claude et Dorian, comme ce sont des coureurs, Dorian de haut niveau, Claude de très bon niveau, c'est leur mental de sportif aguerri, de sportif régulier, qui fait qu'ils sont tous les deux des aventuriers performants, beaucoup plus que leurs compétences de coureur à pied proprement dites.
Marie, tu t'es lancée sur marathon assez jeune. Tu sais, on a un peu cette idée reçue qu'il faut attendre un certain nombre d'expériences, un certain nombre d'années, de faire ses armes sur 10 km, sur semi-marathon, avant de se lancer sur cette épreuve mythique. Toi, tu as un peu passé toutes les étapes. Qu'est-ce qui t'a motivé finalement? Est-ce que pourquoi tu as eu l'envie de courir un marathon? Et est-ce que ça a été des freins, toi, cet aspect de d'âge qui finalement n'a pas forcément lieu d'être d'ailleurs?
Bah, moi, l'avantage, c'est qu'à l'époque, j'y connaissais pas non plus énormément de choses en course à pied. Donc, cet adage un peu de dire, il faut attendre d'avoir fait tant de semis, il faut attendre tel âge avant de faire un marathon. J'en avais entendu parler, mais très vaguement. Et comme j'étais jeune, je l'écoutais pas beaucoup. Donc, je l'ai pas forcément pris en compte. Par contre, effectivement, quand j'ai voulu me lancer sur marathon, j'ai vu en fait mon père arriver sur la ligne d'arrivée de son premier marathon. Je lui ai dit, je veux faire un marathon. Il m'a dit, pour l'instant, Marie, t'es pas prête. Et donc, j'ai commencé à augmenter mes distances au fur et à mesure. J'étais déjà capable de courir un semi-marathon, mais pas régulièrement. Et à partir du moment où j'ai vu que je commençais à être capable de courir 20 km à peu près n'importe quand, si l'envie me prenait, je me suis dit, là, ça y est. Mon père m'a dit, écoute, là, effectivement, t'es prête, tu peux t'inscrire. Et moi, je suis partie là-dessus, en fait. Je l'ai écouté. Alors, c'est peut-être pas le meilleur spécialiste du monde, mais j'ai écouté ce qu'il me disait et pour moi, c'était tout ce qui comptait. Et à partir du moment où j'ai décidé de préparer le marathon, j'ai commencé à effectivement rallonger un peu les distances, me tester sur des trails un peu plus longs de 25 km avec du dénivelé, de courir, je sais pas, je crois que le maximum que j'ai fait avant ma prépa marathon, ça devait être 26 km, un truc comme ça. Et pour moi, c'était bon. Je me suis pas posé de questions, en fait. Je pars du principe que quand on veut faire quelque chose, si on se donne les moyens de le faire, n'importe qui peut y arriver.
Je pense que tu as entièrement raison. Dès qu'on veut se lancer à un défi qui est peut-être un petit peu en dehors des cadres, on essaye toujours de nous dissuader, de nous dire qu'on est trop ceci ou pas assez cela. Mais finalement, c'est une question de volonté. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Si la tête veut, les jambes suivent. Et donc, il faut écouter ses envies, son cœur et se donner les moyens d'y arriver. Normalement, tout devrait bien se passer, peu importe le profil qu'on peut avoir. Tout le monde a sa place sur marathon. En tout cas, moi, j'en suis convaincu. J'ai envie de vous poser une dernière question avant de se laisser pour clôturer cet épisode. Si vous aviez la possibilité d'effacer une erreur que vous avez commise lors de la préparation de votre marathon, ce serait laquelle ?
Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? L'erreur de ne pas avoir couru suffisamment de sorties longues. Moi, c'est ça. J'aimerais me tester un jour sur un marathon avec une préparation suffisamment complète, avec des sorties longues pour aller, ne serait-ce que boucler les 42 km 195 sans jamais m'arrêter de courir. Est-ce que je ferais mieux ? Est-ce que je passerais nettement en dessous des 3h30 ? Peut-être, pourquoi pas, même si maintenant, avec les années, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, faire plus de sorties longues pour me tester réellement, parce que c'est un peu ma frustration. Je vous dis d'un côté que j'ai une préparation empirique, mais je sais aussi pertinemment que je n'ai jamais réussi à me préparer suffisamment bien pour savoir exactement où se situe mon niveau en marathon.
Et toi, Marie ?
Je pense que j'intégrerai un peu plus de renforcement musculaire à mes préparations, parce que c'est vrai que typiquement, par exemple, après mon premier marathon, je m'étais blessée parce que j'ai voulu reprendre trop vite. Je crois que j'ai repris la course à pied 7 jours après mon premier marathon. Et déjà, j'avais pas fait assez de... Il faut faire en général une coupure après son premier marathon. Et en plus de ça, je faisais pas assez de renforcement musculaire, donc j'avais pas eu grand-chose au genou, mais c'était une petite blessure. Ça m'a immobilisé peut-être 3 semaines, mais en tout cas à l'époque on m'a dit que c'était parce que j'avais pas fait assez de renforcement musculaire. Donc voilà.
Merci infiniment à tous les deux. J'espère que on vous retrouvera prochainement sur la ligne du départ du Schneider Electric Marathon de Paris. Marie, est-ce que tu ambitionnes de recourir un peu dans les rues de Paris?
oui, pourquoi pas. C'est un marathon que j'aime beaucoup. J'étais inscrite pour l'année dernière, donc ce sera avec plaisir.
Et toi, Denis, est-ce que tu as déjà couru dans les rues de la capitale, l'une des plus belles villes du monde?
Malheureusement, non, parce que quand toi, tu étais encore en culotte courte et Marie quasiment pas née, j'étais le speaker de ce marathon de Paris pendant plusieurs années. Donc, je ne l'ai jamais couru, mais si je devais en courir un, Paris serait vraiment un objectif, parce que on dit souvent que les marathons dans les grandes villes, c'est quelque chose d'excitant, mais Paris, c'est encore plus excitant parce que c'est un marathon dont le parcours permet de découvrir véritablement la capitale. Pour les étrangers, c'est formidable, mais même pour ceux qui vivent à Paris, comme c'est mon cas, c'est quelque chose d'extraordinaire de visiter Paris et de pouvoir s'évader tout en courant. Donc oui, le marathon de Paris restera un de mes objectifs et j'espère que je le courrai un jour.
C'est la bienvenue en tout cas. Merci infiniment à tous les deux. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. On sent que vous êtes passionnés et animés par le sport et la course à pied. Et je vous dis à très vite. Merci.
Merci à toi.
Cette émission vous a été proposée par Schneider Electric, qui permet à tous de tirer le meilleur parti de notre énergie et de nos ressources en assurant le progrès et le développement durable pour tous. Schneider Electric est fier d'être le partenaire du marathon le plus responsable au monde. Alors vous aussi, rejoignez le programme des Green Runners. À vous de jouer.